Vous écoutez RTL.
Entre ces campagnes publicitaires à gros budget, ces égéries ultra glamour, ces champs de fleurs, le parfum semble avoir trouvé la recette pour nous faire rêver. Mais comment est-il fabriqué? On va tout vous dire sur le parfum avec Sarah Boas, qui est journaliste, rédactrice en chef adjointe de la revue Né. Bonjour.
Bonjour. Alors, bonjour, bienvenue.
D'où Merci. Ça vient ce beau parfum?
Parfum, ouais. Ça vient de perfumum, par la fumée. Ça fait référence aux premiers usages du parfum qui servait à communiquer avec les dieux. Ça faisait le lien entre les hommes et les dieux, puisque les matières odorantes qu'on faisait brûler s'élevaient vers le ciel et leur permettaient donc de leur rendre hommage, de les prier.
D'accord.
Avec quoi c'est fait un parfum? Forcément des végétaux, au départ, hein.
Alors ça peut être composé de beaucoup de choses, ça peut être composé de matières premières naturelles comme synthétiques, donc ça peut être composé de végétaux évidemment. Il existe aujourd'hui des matières premières synthétiques qui ne sont pas extraites de la nature.
Au départ, les végétaux c'était dans le bassin méditerranéen, c'est ça? Quel type de végétaux c'était? Plutôt, je sais pas, bergamote ou je sais pas.
Alors si on remonte vraiment à l'origine, c'était aussi beaucoup des résines, mais ça a été en fait toutes les matières odorantes présentes dans la nature ont été exploitées par les hommes qui les ont fait donc brûler, puis qui ont très tôt appris à les extraire également, donc que ce soit les fleurs, les plantes, les aromates, les épices, les résines.
Et grâce à vous, on va apprendre à confectionner, à fabriquer, à produire du parfum. Et forcément, puisque dans cette émission, dans la curiosité sur RTL, on vous fait gagner aujourd'hui un voyage pour deux personnes à Tahiti grâce à Air Tahiti Nuit qui fête ses 20 ans. Vous pouvez toujours appeler au 3210 ou envoyer RTL au 74 900. On parlera aussi de la fleur de Tiare. À tout de suite, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Au XVIIIe siècle, vivait en France un homme qui comptait parmi les personnages les plus doués et les plus connus de son époque. Son unique ambition se bornait au royaume évanescent des senteurs.
RTL.
Qu'est-ce que tu fais?
Je crée un parfum.
Honnêtement, Pumba, ça sent mauvais.
Oh, pardon.
Pas toi.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et oui, c'était le roi lion, parce que dans la curiosité, aujourd'hui, on parle jus, arôme, note. Alors, quel est le rapport avec le lion? Eh bien, c'est qu'on utilise des animaux pour faire du parfum avec notre
c'est
invité.
C'est un peu capillotracté, pour tout cas, comme transition, mais elle est pas mal trouvée.
Écoutez, atterrissage quand même.
Atterrissage en douceur, j'aime bien. Bravo, Anaïs.
Alors, quels animaux sont utilisés pour faire des parfums?
Alors pendant longtemps, on a trouvé des matières premières animales assez diverses dans les recettes de parfums.
Un qui devrait beaucoup plaire à Thomas, c'est le musc du chevrotin en rut.
Oui, tout à fait.
C'est une réputation. Non mais je rêve.
C'est vrai.
Allez-y, vous ne laissez pas déstabiliser. À quoi ça sert le musc du chevrotin en rut dans un parfum?
Le musc naturel, effectivement, il provient des sécrétions d'un petit chevrotin en rut qui est originaire d'Asie, mais qui a été totalement décimé par les braconniers, justement parce qu'on était friands de son musc, et il a été aujourd'hui remplacé par des muscs de synthèse. Son utilisation n'existe quasiment plus. Mais on trouve encore dans les parfums d'aujourd'hui des matières premières d'origine animale, comme l'ambre gris, là aussi qui a une histoire rigolote, qui a une sécrétion intestinale du cachalot qui rejette en mer. Cette sécrétion, c'est une sorte de boule, elle va dériver au soleil pendant des mois.
Ça sort du cachalot?
Exactement.
Ça flotte?
Ça sort par les voies naturelles, ça flotte, et ça sèche au soleil pendant des mois, parfois des années, avant de s'échouer sur un rivage où ça va être récupéré par des pêcheurs et puis vendu à prix d'or.
Oui, parce que ça doit être assez rare, par définition, difficile à récupérer.
C'est
très
rare, c'est très aléatoire, donc c'est une matière qui est très chère.
Plus facile à trouver, la cire d'abeille, en quoi, comment ça peut rentrer dans la composition d'un parfum?
En fait, on va extraire de cette cire d'abeille une essence qui est assez mielée, très florale.
Mais il faut énormément de cire pour arriver à un petit concentré, non?
Alors, je ne pourrais pas vous donner la proportion exacte, mais généralement, oui, il faut beaucoup de matières premières pour obtenir un peu d'essence, oui.
Alors, il y a aussi, curieusement, la civette qui est utilisée pour sa sécrétion anale. Donc ça, on a quand même du mal à imaginer que ça peut devenir un parfum après.
Oui, les matières premières animales, c'est souvent pas très ragoûtant en fait, en théorie. Et puis en fait, dans les parfums, ça fait des miracles. La civette, c'est effectivement une sécrétion anale qui est produite par un petit chat qui s'appelle la civette et qu'on trouve aujourd'hui encore dans pas mal de parfums et qui a une odeur, vraiment une odeur de biquette, quoi.
Oui, on voit bien, enfin, on sent bien. Quand on parle de parfums, Sarah Boas, aujourd'hui, est-ce qu'on est forcément dans des parfums de synthèse ou est-ce qu'il y a des mélanges?
Alors, il y a des mélanges. Depuis la naissance de la parfumerie moderne vers la fin du 19e siècle, les parfums sont un mélange de matières premières naturelles et synthétiques. Alors, même si les marques aimeraient bien nous faire croire qu'il n'y a que de la rose et du jasmin dans leur jus, c'est précisément en fait l'alliance des ingrédients naturels et synthétiques qui va permettre de faire les parfums comme on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois équilibrés, diffusifs, tenaces, mais aussi originaux en fait, sur un plan esthétique.
Quand vous parlez d'animaux, on les tue les animaux, non?
Alors, ça dépend, mais le pauvre petit chevrotin en rut, malheureusement, on le tuait, ouais.
Ah oui.
Mais le cachalot, non. C'est une matière. Enfin, on n'est pas du tout obligé de tuer l'animal pour le récupérer.
Alors, une fois qu'on a notre matière première, comment ça se fabrique un parfum? Qui décide de ça? Comment on se dit, tiens, bah, je vais faire, un truc citronné ou un truc avec du musc pour Thomas ou...
Je n'ai pas de parfum, tiens, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis particulièrement passionné par ce que vous nous racontez, parce que moi, ça fait des années que je ne porte plus de parfum du tout. Donc, alors, comment ça se fabrique? On part de quoi? C'est quoi le point de départ?
On part généralement de la volonté d'une personne ou de plusieurs personnes, d'une marque, de créer un parfum. Et c'est ensuite sa volonté qui va être transmise sous la forme d'un brief à un parfumeur qui peut être soit indépendant, soit qui peut travailler pour une marque, soit qui va travailler dans la grande majorité des cas pour ce qu'on appelle une société de composition, qui sont des sociétés qui sous-traitent la création et la fabrication de parfums pour des marques qui n'ont pas ces savoir-faire en interne.
C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les nez.
Exactement. Alors en fait,
dès le point de départ, c'est ça.
Ouais,
tout
c'est
à fait. Mais en fait, un nez, c'est ni plus ni moins qu'un parfumeur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les parfumeurs généralement n'aiment pas trop qu'on les appelle des nez parce qu'ils trouvent ça assez réducteur. C'est Jean-Claude Elena qui était le parfumeur d'Hermès qui m'avait dit un jour, ce serait comme appeler un pianiste une main. Le parfum, comme toute forme de création artistique, ça naît avant tout dans l'esprit de celui qui va le composer.
Puis c'est aussi un peu des chimistes et tout ça, non? Enfin, ils ont beaucoup de cordes à leur arc.
Ils ont une formation de chimiste qui est quasiment obligatoire. Mais c'est surtout que leur travail en fait ne se fait pas seulement avec le nez, quoi. C'est vraiment une création de l'esprit, le parfum.
Nez, c'est aussi le nom du magazine dont vous êtes la rédactrice en chef.
Tout à fait.
Adjointe Sarah Boisse, et puis vous publiez aux éditions Nez Culture le grand livre du parfum pour une culture olfactive. Comment on peut savoir ce qui se trouve dans un parfum? Est-ce que moi, je prends une bouteille de parfum, je veux avoir la liste précise des ingrédients? On peut le faire, ça? Comment on fait?
Alors, la liste précise des ingrédients, vous aurez du mal. Si vous voulez savoir grosso modo ce qu'il y a dans un parfum, le meilleur moyen, c'est de le sentir. Ensuite, si vous voulez vous faire une idée plus précise et que vous avez un peu les moyens, vous pouvez vous baser sur la chromatographie, qui est une technique qui existe depuis une cinquantaine d'années environ, qui se perfectionne chaque année et qui permet en fait de séparer les différents composants d'un parfum afin de les identifier.
Et ça, j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrence entre les grandes marques, ils essayent de faire ça?
Ah bah tout à fait, ouais.
D'analyser ce que l'autre a trouvé quand il y a un parfum qui cartonne.
Bien sûr, en plus c'est des enjeux financiers qui sont énormes, donc les sociétés de composition dont je vous parlais, elles ont des services dédiés à la chromatographie, et dès qu'un parfum est lancé, elles vont les passer au crible.
Et bah justement, on va parler de tout ça, on va parler de l'orgue tout à l'heure dans la curiosité.
RTL.
Ça sent le taureau ici.
La curiosité est un vilain défaut.
Je disais, ça sent le taureau ici. Je vous ai entendu dire « ça sent le taureau ici ». En fait, c'est parce que nous transportons du bétail et nos habits sont imprégnés de l'odeur de l'animal susnommé. Veuillez nous excuser, monsieur.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Avec notre invitée Sarah Boisse, rédactrice en chef adjointe de Nez. On vous met au parfum sur le parfum. Celle-là, elle est faite.
Bonne blague.
Oui. Alors, on en était à l'orgue. Qu'est-ce que c'est un ordre? Un orgue.
Alors, un orgue, c'est tout simplement le meuble sur lequel on va trouver toutes les matières premières dont dispose un laboratoire de création. Donc, ça permet au parfumeur d'avoir les ingrédients à proximité quand il élabore sa formule, mais aussi d'avoir des petites quantités qui vont lui permettre de peser et de sentir tous ses essais.
Donc, il a devant lui des tonnes de trucs à sentir.
Alors, la vision un peu romantique du parfumeur artisan, c'est ça. Et effectivement, il y en a encore quelques-uns qui ont un orgue devant eux quand ils composent. Mais la plupart du temps, et les parfumeurs majoritaires aujourd'hui qui sont les parfumeurs en société de composition, sont en réalité devant un écran d'ordinateur. Et ils ont un assistant au laboratoire qui, lui, est devant un orgue et qui va peser au fur et à mesure les essais qu'ils leur enverront.
D'accord. C'est l'assistant qui, en fait, mélange les parfums, enfin, comment on dit d'ailleurs, les fragrances, c'est quoi les parfums de base, vous voyez ce que je veux dire?
On ne parle pas encore effectivement de parfums à ce stade-là, généralement. On parle plutôt de concentré. Donc ça, le concentré, ça désigne le mélange des différentes matières premières qui sera ensuite diluée dans l'alcool pour donner le parfum.
Quand on a trop senti de trucs, Ouais. Vous savez, parfois dans les pharmacies, ils mettent des grains de café ou des trucs comme ça parce qu'ils nous disent ah bah vous vous parfumez plus, Thomas, mais regardez pas comme ça, vous savez pas.
Mais si, je sais très bien.
Mais vous savez, quand vous avez trop senti, vous en pouvez plus, vous êtes écœuré. C'est un bon truc, ça, de renifler des grains de café?
Alors, c'est vrai qu'on prend l'habitude parfois de faire renifler des grains de café. En réalité, ils n'ont pas le pouvoir de laver le nez plutôt qu'autre chose. C'est juste que c'est une odeur qui est suffisamment connue, simple et puissante pour finalement nous permettre de sentir le parfum suivant sans être influencé par celui qu'on vient de sentir. Mais en fait, il pourrait suffire de prendre l'air ou de revenir à une odeur familière comme l'odeur de notre propre peau pour finalement se remettre à zéro.
Et c'est vrai que moi, parce qu'il se trouve que pour un cadeau, je me suis retrouvé à Grasse et effectivement devant cet orgue à essayer de composer son propre parfum. On a voulu faire un parfum d'intérieur et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a un peu de mal à sentir les différentes odeurs et puis on est un peu asphyxié ou un peu étourdi, donc on va dehors pour se laver les sensations, si j'ose dire. Quand j'ai fait ça, on m'a parlé de notes. C'est quoi les notes quand on parle de parfum?
Alors, les notes, ça désigne en fait les odeurs qu'on va percevoir dans un parfum. On distingue généralement notes de tête, notes de cœur et notes de fond. J'imagine que ça vous va vous parler.
C'est vrai, oui.
Donc les notes de tête, ça désigne en fait les molécules qui sont généralement les plus volatiles et les plus légères, donc celles qui vont s'évaporer en premier. C'est les premières qui vont en gros vous arriver dans le nez et qui vont s'évaporer généralement plus vite. Les notes de cœur sont un peu plus tenaces, donc on va avoir par exemple les fleurs, là où les notes de tête vont être plutôt les agrumes. Et ensuite, les notes de fond sont celles dont la structure moléculaire en fait est la plus lourde, donc c'est des ingrédients qui vont rester plus longtemps, qui vont composer le sillage du parfum. Donc là, on a les bois, les résines, les muscles, donc des grosses molécules.
Alors, une fois que le parfumeur a pris son assistant, son orgue et ses mouillettes là, mouillettes, on dit mouillettes?
On dit mouillettes pour les petites touches de papier, là c'est des mouillettes, oui.
Comment il sait que son parfum est terminé? Comment il sait que c'est pas... Enfin, vous voyez, ça peut
durer
des années.
Oui, parce qu'on est parti d'un brief tout à l'heure du client et lui, il faut qu'il se rapproche de ce qu'était la demande de la marque, en quelque sorte.
Bah alors, la plupart du temps, c'est le client ou le rétro-planning qui va faire que sa formule va devoir être terminée. C'est généralement ça qui marque la fin du développement. Et il faut savoir qu'entre le début et la fin du développement d'un parfum, dans le cas classique d'un lancement grand public réalisé par une société de composition, il se passe en général 2 ou 3 ans, avec parfois des milliers d'essais. Enfin, même très souvent des milliers d'essais, puisque le développement d'un parfum, il est jalonné de plein d'évaluations et notamment de tests réalisés auprès de consommateurs qui vont à chaque fois donner lieu à des nouvelles modifications de la formule.
Sarah Boisse, pourquoi on a parfois l'impression qu'un parfum ne tient pas ?
Mais tout simplement parce que notre nez est un organe qui est principalement destiné à détecter la nouveauté pour nous alerter d'un danger potentiel. Donc en fait, au bout d'un moment, il y a un phénomène d'accoutumance en fait qui se met en place et qui fait que votre cerveau ne va pas traiter l'information du parfum que vous portez quotidiennement, sinon il sera constamment saturé. C'est comme le ronronnement du frigo dans votre salon. Heureusement que vous l'entendez plus au bout d'un moment.
On n'arriverait plus à dormir. Ça nous rendrait dingue. Bon allez, on a encore plein de questions à vous poser sur les parfums, leur fabrication, pourquoi ils prennent autant de place dans nos vies. À tout de suite, les curieux sur RTL.
Vous sentez cette odeur?
Quoi?
C'est le napalm, fille. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
RTL.
All I need is 5 minutes.
D'après les scientifiques, il semblerait que la première rencontre et la séduction n'existent pas.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
Inconsciemment, la femme choisirait l'homme exclusivement grâce aux odeurs.
La curiosité est un vilain défaut.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en couple depuis plus de 3 ans? Oui. Eh bien, vous avez le nez bouché.
C'était Olivier de Benoît avec son sketch L'odeur donne amour, puisque avec notre invitée Sarah Boisse, rédactrice en chef adjointe de Nez, on vous parle du parfum. Alors moi, il y a toujours une question que je me suis posée, c'est pourquoi les parfums ne sentent-ils pas la même chose sur Coralie Lutinier, qui est la productrice de l'émission, ou sur moi, ou sur Perrine Suquet, qui est sa rédactrice en chef? On se chie du parfum, ça n'a pas la même odeur.
Ben, en réalité, c'est très rare qu'un parfum soit vraiment totalement méconnaissable d'une peau à l'autre. Évidemment, chaque peau a un équilibre unique, un pH, une flore bactérienne qui lui est propre, et qui peut donc éventuellement faire ressortir certaines facettes d'un parfum. Mais en réalité...
Non, c'est une impression.
Oui, c'est plutôt une impression.
Juste une illusion.
C'est quoi la différence entre une eau de toilette et un parfum? C'est des histoires de concentration?
C'est tout simplement une histoire de concentration. C'est la proportion de concentration concentré de parfum, donc du mélange de matières premières dans l'alcool, qui va varier. Elle est de l'ordre de 12% pour une eau de toilette et de plutôt 18-20% dans une eau de parfum. Et toutes les autres dénominations qu'on voit aujourd'hui, les voiles, les machins, c'est souvent plus des termes un peu marketing qu'une réalité de concentration.
Est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes aussi dans la façon de... Dans le rendu d'un parfum, vous voyez ce que je veux dire ? On se disait entre nous, on a l'impression que le même parfum ne va pas sentir la même chose. Est-ce qu'il y a des parfums qui tiennent plus sur la peau des hommes que sur la peau des femmes ? C'est aussi une impression qu'on a.
Bah, ça voudrait dire qu'il y aurait une différence entre la peau des hommes et la peau des femmes. Je ne crois pas que ce soit une différence réelle. En revanche, c'est vrai que la parfumerie propose des parfums quand même assez codifiés, surtout la parfumerie grand public. Et les hommes, on leur donne généralement des notes très tenaces, bien viriles, qui tiennent beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça la raison pour laquelle on peut sentir peut-être une différence, mais ça tient plus au parfum eux-mêmes.
Il y a des parfums mixtes en plus maintenant.
Et il y a des parfums mixtes et tous les parfums sont mixtes. Hein.
C'est quoi les jus, puisque c'est le terme qu'on emploie, les plus mythiques, ceux qui sont le plus vendus, tiens, peut-être en France pour...
Alors, le parfum, je pense, qui restera le plus vendu, c'est quand même le numéro 5 de Chanel. Et ça, je pense que c'est partout dans le monde.
Il y avait la phrase mythique de Marilyn Monroe sur Chanel 5.
Qu'elle portait juste une goutte de Chanel 5 pour dormir.
Ouais, c'est ça. Ça fait une bonne pub, elle.
Ah oui, c'est sûr.
Donc, le numéro 5.
Donc, le numéro 5 reste l'un des plus vendus. On a, en fait, quelques références historiques qui continuent de bien marcher, comme Chalimar. On trouve aussi Angel de Thierry Mugler, qui est sorti en 1992. J'adore de Dior, qui date plutôt de la fin des années 90. Et puis du côté des hommes, on aura par exemple le Bleu de Chanel qui marche très bien.
Ces parfums qui sont forcément dans une osmothèque, c'est quoi ? On va terminer là-dessus, une osmothèque.
Alors une osmothèque, en fait, c'est l'osmothèque, puisqu'il n'y en a pas plusieurs. C'est un lieu qui est unique au monde, qui a été créé en 1990 à Versailles à l'initiative d'un parfumeur qui s'appelle Jean Carléo.
Et qu'on peut visiter ?
Qu'on peut visiter, qui est ouvert au public, qui organise régulièrement des conférences et en fait qui rassemble aujourd'hui environ 4000 parfums, dont 800 disparus. Donc parmi elles, on trouve des références qui n'existent plus du tout, comme des parfums historiques, comme l'eau de toilette de Napoléon, ou des parfums mythiques de Coty ou de Guerlain qui ont été discontinués pour diverses raisons et qui ont été reconstitués grâce aux formules originales pour permettre d'être toujours à disposition du public.
Merci beaucoup. Sarah Boisse. On s'est régalé avec Thomas, avec votre grand livre du parfum chez Nez Culture.
RTL, la curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.